va être enregistré. Et puis, lorsque vous allez intervenir, on va avoir un micro. Il devrait avoir un petit peu d'amplification pour s'aider à comprendre, à vous entendre. Et donc, tout est disponible sur le site Internet. C'est bon? Alors, merci, on peut couper ça. Puis, on va aller dans un mot de prière ensemble. Si jamais vous ne m'entendez pas, si vous ne m'entendez pas bien, vous ne gênez pas, je le dis à chaque cours, faites juste me faire signe comme ça, je vais m'ajuster, d'accord? Vous n'avez même pas besoin de lever la main, juste faire signe jusqu'à temps que je vous vois, puis je vais m'ajuster, je vais relever le volume un petit peu, c'est bon? On va aller ensemble dans un mot de prière. Eh bien, Père éternel, on veut te bénir, Seigneur, pour ce temps ensemble ce matin, pour élever ton nom, célébrer ton nom, te connaître davantage, ô Dieu. Alors, ce matin que nous parlons de ta grâce et du fait aussi que tu es juge, Seigneur, juge des cieux, de la terre, de tout ce qui se meut sur la terre, Seigneur. Nous voulons te découvrir tel que tu es, tel que tu t'es fait connaître dans ta parole. Je te prie, Père, de venir parler à nos cœurs ce matin que ces réflexions, ces choses que nous apprenons sur toi aient un impact véritable dans nos cœurs, Seigneur, dans notre vision de toi, dans notre communion avec toi, Seigneur, viens nous transformer. Et Père, je te demande de venir nous rencontrer là où nous sommes, chacun d'entre nous, que par le ministère de ton Esprit Saint, Seigneur, ta parole soit appliquée dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos vies, Seigneur. Ne permets pas, Père, que nous quittions cette assemblée sans avoir été touchés et éclairés par ta parole et par ton esprit, par le propos, l'intervention, l'encouragement d'un frère, d'une sœur. Viens mettre en lumière, Seigneur, librement, dans nos cœurs, tout ce que tu veux mettre en lumière afin que nous soyons transformés à l'image de ton Fils. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors, on est dans le cours « Connaître Dieu » qui est en fait basé sur le livre de G.I. Packer, « Knowing God », en français « Connaître Dieu ». Je vous encourage évidemment à lire le livre, même bien plutôt que de suivre le cours. C'est beaucoup plus intéressant que moi. Dans notre cours, on va terminer la leçon 9 et on va voir ensemble la leçon 10. On devrait être bon pour couvrir cette matière-là au complet. Et en réalité, dans le livre, pour ceux qui suivent dans le livre, on parle des chapitres 13 et 14, d'accord? Alors, on est dans la leçon 9. Si vous n'avez pas de notes sur la petite table juste où se trouve Rachel, justement, qui est en train de se prendre une copie, vous pouvez aller vous procurer une copie. Vous allez la trouver seulement à la leçon 10, puisque on était déjà dans la leçon 9 la semaine dernière. Et comme je le mentionne à chaque semaine, si vous voulez recevoir par courriel pendant la semaine les notes, simplement envoyez un courriel à l'adresse de la secrétaire de l'Église ici, d'accord? Et puis, vous pouvez aussi trouver tout cela sur notre site Internet, autant les fichiers audio que les PDF, donc les notes. Ce n'est pas toujours à jour à la semaine près, mais vous allez trouver éventuellement tout ça sur le site web. Alors, la semaine dernière, on a commencé à parler de la notion de la grâce de Dieu, la doctrine de la grâce de Dieu. Et puis, j'avais voulu vous laisser partir. Je vous ai laissé partir avec une idée qui devrait être évidente pour tous, mais à notre époque, avec notre vision de Dieu, notre vision de la justice, notre vision de l'univers, qui a été profondément transformée, entre autres, par le courant humaniste, d'accord, qui amène l'homme à se voir davantage comme étant au centre de l'univers. Est vrai, est juste, est bon, tout ce que je juge comme tel, puisque j'ai la raison, j'ai l'intelligence pour voir, évaluer les choses, comprendre les choses. Donc, est vrai, juste et bon seulement ce qu'il est à mes yeux. Est raisonnable ce que je peux raisonner. Ce que je ne peux pas raisonner, c'est probablement pas raisonnable, d'accord? C'est en gros, là, très vulgarisé, c'est en gros notre approche contemporaine du bien et du mal, de la vision du monde et de la vision de Dieu aussi. Alors, lorsqu'on a terminé la leçon la semaine dernière, assez rapidement, je vous ai lu plusieurs extraits, plusieurs citations à la page 2 de la leçon 9, donc des notes de la leçon 9, « Le principe de la justice divine et la rétribution ». Cette notion-là que Dieu aurait comme fondement, Dieu aurait comme fondement dans son regard qu'il regarde, lorsqu'il regarde l'univers, lorsqu'il regarde tous les êtres qui vivent dans l'univers qu'il a créé, Dieu aurait comme premier rapport avec l'univers, avec les êtres qu'il a créés, cette idée de justice. Et que Dieu va rendre justice, Dieu va rétribuer, Dieu va payer chacun selon son dû sur la base du bien et du mal qu'il a fait. Cette idée-là, de plus en plus, dans notre ère post-moderne, post-chrétien, apparaît comme absurde, d'accord? Ce n'est pas concevable. Cette semaine, pas plus tard que cette semaine, je lisais un article dans le journal La Presse et un monsieur qui a été reconnu coupable de différents crimes, mais il passe en cour à l'âge de 81 ans, d'accord? Alors, le procureur de la couronne, c'est celui qui porte l'accusation. Le procureur de la couronne a fait ce commentaire suivant. C'est certain qu'idéalement, il ne faudrait pas que cet homme-là termine sa vie en prison. Pourquoi? Parce qu'il a 81 ans, puis ça serait triste pour un homme de terminer ses jours en prison. D'accord? Alors, on comprend, je peux compatir à la misère d'un homme qui terminerait sa vie en prison. Mais sur la base de cette sympathie-là, la notion de justice et de rétribution est complètement effacée. En somme, plus tu vas faire tes crimes près de la fin de ta vie, plus tu as de chances que tout le monde veuille t'exempter de tes fautes. Est-ce que vous me suivez? Plus tu vas faire tes crimes tard, dans une situation difficile, plus l'humanité va excuser et ne te jugera pas sur la base de ce que tu as fait, mais de ce que ça pourrait impliquer pour toi si on te jugeait. D'accord? Et il faut comprendre que dans la vision biblique de l'humanité, dans la vision biblique de la condition humaine et du péché, la justice, le droit, juger les choses et rétribuer selon ce qu'elles méritent, n'exclut aucunement la compassion. D'accord? Donc, Dieu peut condamner, juger et avoir compassion de la folie du coupable. D'accord? Mais ça, c'est de moins en moins présent dans notre société. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on voit la justice, et ça a un impact sur notre vision de Dieu. Maintenant, ça va avoir un impact énorme après sur notre compréhension de la grâce. Comprenez? Est-ce que vraiment on fait grâce à un homme de 81 ans si on ne l'envoie pas en prison? Ou est-ce que ce ne serait pas tout simplement inhumain que de l'envoyer en prison? Donc, on lui doit cela. D'accord? Ce que je pense de ça, c'est que la justice doit se faire. La justice doit venir. C'est ça que je pense. Maintenant, pour un chrétien, évidemment, toute justice qui est exécutée sur la terre est simplement une préparation à passer devant le juge éternel. Donc, pour moi, personnellement, qu'un homme de 81 ans, s'il doit terminer, c'est vraiment triste, mais s'il doit terminer sa vie en prison pour réaliser sa folie, et si à travers le processus, il réalise qu'il est pécheur, j'ai peut-être des chances qu'il se prépare à rencontrer Dieu comme un pécheur repentant. Comprenez? Alors, oui, j'ai pas de problème avec ça, au contraire. Maintenant, ça n'exclut pas la compassion. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas visiter un prisonnier. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas prier avec lui. Ça ne veut pas dire que je n'irai pas le voir dans sa misère. Je suis un pécheur. J'ai compassion de la bêtise puis de la folie humaine. Moi-même, j'en suis dépositaire, d'accord? Je fais preuve de bêtise moi-même, constamment, d'accord? Alors, on revient dans les notes. Donc, on avait commencé à mettre ça, à mettre la table avec ça. Je m'en vais au milieu de ce paragraphe-là. La Bible ne cesse de répéter que ce monde créé par Dieu dans sa bonté est un monde qui possède une dimension morale et dans lequel la rétribution a un rôle aussi fondamentalement important que la respiration. Alors, à nos yeux, aux yeux de nos contemporains, et souvent à nos propres yeux, à nous, même comme chrétiens, on est tenté de voir la morale comme quelque chose de négociable. D'accord? Le bien et le mal, ça se négocie. C'est peut-être bien, c'est peut-être mal, c'est selon. Maintenant, c'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Alors, c'est vrai qu'on peut se tromper dans notre jugement. Ça, c'est évident. Je pourrais juger M. Saunier pour une raison quelconque puis être tellement mal informé, tellement pas au courant que je suis complètement à côté de mes feutres. Mon jugement est erroné, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que la vérité, à savoir pour trancher si c'est bien ou si c'est mal, ce qu'une personne a fait, n'existe pas. Ça parle juste de ma limite à moi pour mesurer, pour évaluer ce qui est bien et ce qui est mal. D'accord? Alors, la Bible ne cesse de répéter que ce monde créé par Dieu dans sa bonté est un monde qui possède une dimension morale et dans lequel la rétribution a un rôle aussi fondamentalement important que la respiration. Et c'est souvent ça la difficulté que les gens ont avec l'Ancien Testament. Ils vont voir cette notion-là de rétribution constamment présente dans l'Ancien Testament, puis ne le voient pas apparaître dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'éclairer là-dessus? Où est-ce que la notion de rétribution apparaît dans le Nouveau Testament?
Apocalypse.
Dans l'Apocalypse. Bien avant ça, le cœur même du Nouveau Testament, c'est quoi? La croix, c'est quoi? C'est une rétribution. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire pour le prendre à la place de quelqu'un d'autre. D'accord? Mais Dieu n'a pas donné une petite tape ses fesses à Jésus pour dire, « Regarde, je vois que tu étais prêt à te sacrifier. Tu étais plein de bonnes intentions. Tu n'as pas besoin de subir tout ça, mon grand. Tu tapes ses fesses puis tu peux t'en aller. » Non, non, non. Dieu a maudit son fils. C'est ça qui s'est passé là. D'accord? Donc ça, c'est la réalité. Alors, ceux qui ne voient pas cela dans le Nouveau Testament passent à côté du message central du Nouveau Testament, qui est le message central de toute la Bible. D'accord? C'est super important. Et donc, partent sur une image de Jésus en gougoune avec une marguerite dans les cheveux puis un spiff dans la bouche, d'accord? C'est un peace and love. C'est pas quelqu'un qui s'en va s'offrir en sacrifice, d'accord? Un petit peu plus bas dans le même paragraphe, « Dieu ne serait pas fidèle à lui-même et conséquent avec sa propre personne s'il ne jugeait pas le mal et ne le rétribuait pas. L'homme moderne ne ressent que rarement le besoin d'être véritablement intègre. » Et un bon exemple de ça dans notre société, super évident, c'est toute la question du travail au noir. D'accord? Je veux dire, dans une première question, tu arrives avec un micro puis tu accroches quelqu'un dans la rue puis tu dis, « Hey, ça a-tu de l'allure, tu penses, le travail au noir, c'est-tu correct? » Bon, si la personne le fait, peut-être qu'elle va être plus vite pour trouver des excuses. D'accord? Ou si elle vient juste de donner un contrat pour une rénovation dans sa maison, puis il vient de se sauver un petit 2 000 $, un petit 3 000 $, il va trouver des excuses tout de suite. Mais si je pointais quelqu'un d'autre, juste pour être sûr, tu regardes le gars aller, tu dis, OK, lui, il n'y a pas de placement dans les îles Jersey. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, admettons, juste pouvoir mettre de l'argent à l'abri du fisc puis pas payer d'impôts, des choses comme ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est mal. C'est mal. Dans une première question très rapide, presque tout le monde dans la société va dire, tu ne peux pas construire une société sur ce principe-là où quand je me fais pogner, je paye mes impôts. Si je ne me fais pas pogner, ben tant mieux, tu sais. Puis on se passe tout le mot pour savoir qui coûte le moins cher parce qu'il le fait en dessous de la table. Donc la société, le système économique est fondé en bonne partie sur ça. Mais il y a zéro volonté politique puis zéro volonté dans la population générale pour changer ça. Pour de vrai, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Vous demanderez à des chrétiens qui veulent marcher droit puis qui appellent à Régie pour leur dire, « Hey, il y a telle compagnie, là, je viens de me faire voler des contrats. Lui, écoute, il saute en dessous de la table. » Je vous dis, « Je sais, je parlais avec des frères qui l'ont fait. Ils se sont fait dire, « Écoute, on ne se déplace pas pour ça. » D'accord? Alors, maintenant, vous comprenez, c'est pas juste les autorités, c'est tout le monde, c'est partout. Donc, c'est là partout, d'accord? Alors, l'être humain, fondamentalement, par sa nature pécheresse, ressent rarement le besoin d'être vraiment intègre. C'est rare que l'être humain, naturellement, va ressentir cela. On va se donner une image d'intégrité, ça fait partie de notre héritage judéo-chrétien, de paraître comme des gens intègres. Donc, la campagne électorale s'est terminée sur un fond la dernière semaine de c'est qui le plus propre, c'est qui le plus sale, c'est qui le plus propre, c'est qui le plus sale. Tout le monde écoute, tout le monde dit, il faut juste mettre le doigt sur la bonne affaire, c'est sûr, tout le monde va être trouvé croche, ou presque, d'accord? Mais en gros, c'est ça. Donc, ça reste une valeur, ça reste un plus, mais en même temps, personne n'y croit. Il n'y a pas une profonde recherche d'intégrité. C'est une valeur très, très rare. Cet élément-là, il est super important. Si dans votre compréhension de Dieu, si dans votre compréhension de comment Dieu voit les hommes, cette idée que chaque être humain va comparaître et va devoir rendre compte pour ce qu'il a fait, si ça, ce n'est pas clair, vous ne pourrez pas bien comprendre la parole de Dieu. Vous ne pourrez pas bien comprendre les Écritures. Vous allez faire une lecture sélective des textes. D'accord? Ça doit être super clair dans votre esprit. Vous devez apprendre à le voir et à connaître Dieu tel qu'il est. Mais ce n'est pas juste que vous allez faire une lecture sélective des textes, c'est que ça va affecter votre adoration. Vous allez adorer le Dieu qui va juste vous donner une petite tape sur les fesses si vous faites quelque chose de mal. D'accord? Moi, ce n'est pas ce Dieu-là que j'adore. Ce n'est pas ce Dieu-là que je connais. Je connais un Dieu terrible. Et c'est celui-là que je sens et que j'adore. Un Dieu gracieux. Un Dieu bon. Un Dieu d'amour. Mais un Dieu terrible aussi. D'accord? Ensuite, l'homme est spirituellement impuissant. Je ne m'étirerai pas sur ça, d'accord? Mais très brièvement, personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Alors, il n'y a rien que l'être humain, par ses propres efforts, que ce soit en ayant une bonne morale, en étant assidu à l'Église, va pouvoir se justifier, va pouvoir enlever, changer sa condition. On peut essayer de s'améliorer, de ne plus faire les mêmes fautes, mais de se rendre acceptable devant Dieu puis effacer nos fautes. Tu ne peux pas effacer tes fautes par un plus grand bien, d'accord? Ce principe-là est étranger aux Écritures. Tu dois rendre des comptes pour qui tu es. Alors, lorsque je veux comprendre la grâce de Dieu, ensuite de ça, la prochaine page, page 4, je dois comprendre que Dieu est souverainement libre. C'est vraiment important. Ça va très, très vite, d'accord? On voit vraiment des choses, là. Je relisais tout ça et je me disais, hey, c'est vraiment la base. Mais c'est super important en même temps que ce soit acquis pour vous, d'accord? Dieu est absolument et souverainement libre de faire grâce ou de ne pas faire grâce. Souvent, dans la vision que les hommes se sont faits de Dieu, tout à l'heure pendant le message, on va parler du deuxième commandement, on va parler d'idolâtrie, on va parler de se tailler un Dieu sur mesure. Alors, l'être humain, dans ce désir de croire dans un Dieu, mais de le faire à son échelle, il a conçu Dieu comme un être qui est dépendant comme lui. Nous sommes des êtres dépendants, on n'est pas indépendants, d'accord? Si la société décide qu'il n'y a plus de nourriture pour Yannick, je ne vais pas être entièrement autonome, puis quand on met un enfant au monde, il est totalement dépendant. On est dépendant de notre naissance jusqu'à notre mort. Et donc, l'être humain, dans toutes ses divinités qu'il s'est créé, a imaginé des dieux qui lui ressemblent, qui sont dépendants. Et donc, le rapport entre leur Dieu et eux, c'est un rapport de donnant-donnant. Vous avez de petits dieux un peu partout dans l'histoire de l'humanité qui ont été imaginés et qui ont besoin, qui se nourrissent, d'accord, des acclamations, de l'adoration. C'est comme si les adorateurs étaient leur source d'énergie pour continuer à vivre. En fait, si vous avez lu un peu de fiction, c'est un thème qui revient constamment. Les dieux vivent et meurent sur la base du nombre d'adorateurs qu'ils ont. Et si on les oublie comme une fée, n'est-ce pas, à qui on dirait les fées n'existent pas, une fée vient de disparaître, si on oublie ces divinités-là, elles meurent. D'accord? Donc, elles ont besoin de nous. Ça, c'est la vision que l'homme va se faire d'un Dieu qu'il se crée sur mesure. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est totalement indépendant. D'accord? On importe une vision semblable de Dieu où on pense que Dieu est dépendant, puis on se dit, ben, dans le fond, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Puis ça va nous amener même à déformer des trucs, comme dire, ben, Dieu avait besoin de nous pour le glorifier, tu sais. Mais Dieu est totalement indépendant. Dieu était complet, heureux sans l'humanité. Et si j'ai une autre vision que ça de Dieu, c'est déjà un petit Dieu fait sur mesure. C'est un Dieu à ma ressemblance. Alors, quelques passages rapidement. En fait, je vais juste lire le paragraphe pour m'assurer que je n'ai pas oublié un élément. Le paganisme d'autrefois croyait que chaque dieu était lié à ses adorateurs par des liens d'intérêt personnel. Le bien-être du dieu dépendait du dévouement et des dons de ses adorateurs. Le paganisme actuel pense au fond un peu la même chose. Dieu est en quelque sorte contraint de nous aimer et de nous aider, même si nous ne le méritons pas. Et puis, j'ai vraiment aimé la citation... un philosophe allemand, ça illustre très, très bien, qui aurait dit sur son lit de mort à son épouse, « Dieu pardonnera, c'est son métier. » Ce n'est pas son métier. Il ne doit pas pardonner. Il veut pardonner. Et donc, Dieu ne nous doit rien. Dans le psaume 50, 8 à 13, on lit « Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui s'y meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? » Et puis plus tard, Paul va dire dans le livre des Actes, lorsqu'il arrive à Athènes, il dit « Car en parcourant votre ville, il s'adresse aux Athéniens qui avaient tous ces dieux qu'ils s'étaient taillés sur mesure, qu'ils avaient imaginés, conçus. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription. À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. » D'accord? Alors, c'est vraiment important pour comprendre la grâce. On est dans le sujet de la grâce ici. C'est vraiment important pour comprendre la grâce de saisir que Dieu est totalement indépendant. Et Dieu ne nous a pas créés parce qu'à un moment donné, après quelques millénaires d'éternité, il s'ennuyait tout seul sur son île avec sa Sainte Trinité puis ses quelques milliards d'anges, puis il a dit « Ça me prendrait une coupe de pécheurs que je pourrais aller racheter pour qu'ils m'adorent en plus pour l'éternité. Il me semble que j'ai fait le tour des anges. » D'accord? C'est pas comme ça que ça s'est passé. Dieu est Dieu, Dieu est parfait, Dieu est totalement indépendant de nous, sans aucun besoin de nous, ni dans la création, ni dans la grâce. Et ça, c'est super important à saisir. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alors, la grâce de Dieu ne repose pas sur le fait qu'on mériterait. La grâce de Dieu ne repose pas sur le fait que Dieu aurait besoin de nous. La grâce de Dieu repose uniquement sur sa bonté. D'accord? Ce que nous méritons, c'est une juste rétribution de Dieu, c'est-à-dire être jugé et condamné parce que nous sommes tous pécheurs. Et Dieu, dans sa bonté, Dieu, dans sa grâce, non pas par besoin, décide de venir sauver. Malheureusement, l'homme moderne croit que Dieu doit faire grâce et que Dieu doit cette grâce-là à l'être humain. Si je m'en vais au haut de la page 4, la grâce de Dieu, c'est l'amour divin, librement manifesté envers les pécheurs coupables, indépendants de leur mérite et même au mépris de leur démérite. D'accord? Alors, on ne méritait pas la grâce de Dieu. Dieu ne nous la devait pas. Ça va? Et ça doit être vraiment clair dans notre esprit, parce que ça affecte notre lecture des journaux tous les jours. Ça affecte notre lecture de notre vie tous les jours. En raison de notre nature pécheresse, fondamentalement, ce qu'on croit, c'est que Dieu nous en doit une puis une autre. D'accord? Et lorsque Dieu n'est pas au rendez-vous pour satisfaire nos besoins, nos désirs, à quelque part, il a manqué. Il n'est peut-être pas aussi bon que je pensais. Ce que Dieu me doit, c'est quoi? C'est le châtiment éternel, c'est tout ce que Dieu me doit. C'est tout ce qu'il me doit. Et Dieu est gracieux, Dieu est bon. Il me donne infiniment plus que ça. Même si je le méprise et je le rejette chaque jour de ma vie jusqu'à ma mort, il va me donner infiniment plus que ça. Il va me donner une vie sur la terre, avec un soleil qui se lève certains jours, avec un printemps qui se pointe, avec des bons repas. Voyez-vous? Et tout ça a été mérité. D'accord? La grâce, source de pardon du péché. La justification, c'est le coup de théâtre de Dieu. Je suis au milieu de la page 4. C'est le coup de théâtre de Dieu qui fait d'un criminel condamné, attendant l'exécution d'une terrible sentence, un héritier espérant un fabuleux héritage. Si je crois que Dieu nous en doit, je ne verrai jamais ça comme ça. L'Évangile apparaît dans ma vie, puis c'était quelque chose qui m'était dû. D'accord? Mais lorsque je suis conscient de mon état de péché, lorsque je suis conscient, lorsque je saisis qui est la personne de Dieu, le fait que Dieu intervienne, me prenne moi qui le méprisais, qui le rejetais, moi qui continue à être un pécheur constamment. D'accord? me prenne moi et fasse de moi un héritier, un co-héritier de Christ. » Wow! Ça sort d'où, cette affaire-là? Tu ne peux pas la voir venir. Pas si tu comprends dans quel univers tu vis. Point 2, la grâce, source du plan du salut. Alors, le pardon est au cœur de l'Évangile, mais il ne résume pas toute la doctrine de la grâce, car le Nouveau Testament situe ce don de Dieu, qui est le pardon des péchés, dans le contexte d'un plan de salut. Alors, il y a le moment de la grâce, il y a ce que Christ fait à la croix, mais le plan de salut est beaucoup plus global que ça. Il s'inscrit dans toute la notion de l'élection, c'est-à-dire que Dieu nous a élus avant même la fondation du monde, sachant que nous allions être des pécheurs, sachant que nous allions le rejeter. Il va trouver sa conclusion seulement lorsque l'Église sera parvenue à la perfection dans la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle du plan du salut, on parle de cet ensemble-là, d'accord? Et donc, la grâce couvre tout ça pour le chrétien. Point 3, la grâce, une garantie de la protection des saints. Alors, encore une fois, c'est tout cet argument-là. Dans la théologie de la réforme, dans la théologie réformée, cette idée que Dieu sauve une fois, Dieu sauve pour toujours, c'est cette vision-là d'une grâce qui va au-delà de tout ce qu'il aurait pu avoir en moi, qui aurait choisi Dieu par moi-même. Si le plan de salut divin est assuré de se voir réalisé, l'avenir des chrétiens est lui aussi assuré. De la même manière que Dieu, avant la fondation du monde, avait déterminé qu'il viendrait sauver des hommes à travers le sacrifice de Jésus-Christ, de la même manière que Dieu, dans sa providence divine, a pu opérer toutes choses. Malgré le fait que les hommes sont responsables de leur choix, Dieu a pu conduire toutes choses pour arriver à la croix et que le plan de rédemption soit accompli à la croix. Il est souverain. Et par sa providence, il conduit toutes choses-là de la même manière. Il est souverain et sa providence va pouvoir à nous garder, nous, jusqu'à la fin, d'accord? Donc, si le plan de salut divin est assuré de se voir réalisé, l'avenir des chrétiens est lui aussi assuré. Ils sont et seront, par la puissance de Dieu, gardés par la foi pour le salut. Ils n'ont pas à se tourmenter dans la crainte de perdre la foi. Simple verset qui est super clair. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Et donc, cette foi qui nous garde près de Jésus-Christ, c'est une grâce de Dieu, c'est une opération de la puissance de Dieu. D'accord? Donc, le dernier commentaire pour terminer à la page 5, pour terminer cette leçon-là. Dans le Nouveau Testament, la doctrine est grâce et la morale est gratitude. Donc, je ne vais pas m'étirer sur ça, c'est un sujet en soi, mais toute cette vision de la grâce qui nous amènerait à dire on est sauvé par grâce et donc on est libre de faire tout ce qu'on veut. C'est une perversion profonde et ça fait juste démontrer qu'on n'a pas compris c'est quoi la grâce. D'accord? Si j'ai aucun mérite pour être sauvé, lorsque je suis sauvé, ma vie est une action de grâce. C'est ça qui se passe. Toute ma vie durant, je vais chercher à honorer cette grâce-là, à m'appuyer sur cette grâce-là pour glorifier Dieu. Et j'aime bien cette citation en terminant de M. Packer. « Ceux qui voient dans la grâce divine un encouragement au laxisme moral, c'est-à-dire à se laisser aller dans le péché, de toute façon, le salut final est assuré quoi qu'on fasse. Notre conduite n'a donc aucune importance. » C'est comme ça que certains réfléchissent, d'accord? « Ceux qui voient dans la grâce divine un encouragement au laxisme moral prouvent simplement qu'au sens le plus littéral du mot, ils ne connaissent pas ce dont ils parlent, car l'amour éveille l'amour, et l'amour, une fois éveillé, cherche à plaire. » OK? Alors, si vous rencontrez des gens qui disent « Moi, je suis chrétien, puis parce que j'ai été gracié, c'est pas important, Dieu va me sauver. » Personnellement, ce que je leur dis, c'est « Va lire un Jean. Va lire un Jean pour le fun. Si ça ne te fait pas trembler, oublie ça. Tu connais Dieu d'aucune manière. Tu ne sais pas du tout qui est Dieu. » Et si avec ce que tu viens de me dire, tu connais Dieu, tu vas trembler. Puis tu vas te poser la question, est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Personnellement, je ne peux pas lire 1 Jean sans être troublé dans mon cœur, sans aller dans la prière, puis courir à la croix puis dire, Seigneur, c'est juste par ta grâce et que ta grâce produise la sainteté en moi. D'accord? Alors, vous rencontrez des gens qui disent qu'ils ont une vision comme ça de Dieu, c'est probablement qu'ils n'ont pas saisi l'Évangile. C'est probablement qu'ils n'ont pas saisi la grâce. Encore une fois, c'est une espèce de vision de la grâce de Dieu qui dit en somme que Dieu nous doit ça. D'accord? Ils vont dire, OK, Dieu ne me le devait pas. Dieu ne me le devait pas, il m'a fait grâce, mais puisqu'il m'a fait grâce, bien, il me doit de me pardonner à jamais. Comprenez? C'est le même raisonnement. Est-ce que vous me suivez quand je dis ça? Quand je parle avec un non-chrétien qui voit Dieu comme une espèce de Dieu bonbon qui nous doit de nous pardonner tous nos péchés, tout simplement, ma vision de Dieu, c'est je ne saisis pas que Dieu me doit rien. Tout ce que Dieu me doit, c'est sa colère, parce que je suis un pécheur. Je suis un pécheur, d'accord? Mais si, après ça, je dis que j'ai connu Jésus-Christ, puis je dis, ouais, mais là, j'ai été gracieux, donc Dieu va me pardonner. J'ai été gracié, j'ai été pardonné. Dieu va me pardonner, Dieu me doit ça maintenant. C'est exactement le même raisonnement, d'accord? C'est exactement le même raisonnement. Ce n'est pas que Dieu te le doit, c'est que Dieu va te garder dans sa grâce. C'est que Dieu va te garder en Jésus-Christ si tu es un enfant de Dieu. Et donc, le processus, en théologie, on appelle ça la sanctification, le processus par lequel quelqu'un qui a cru en Jésus-Christ a reçu un cœur nouveau, a été régénéré et progressivement transformé à l'image de Christ. Paul va dire « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ». D'accord? Ça, c'est le processus de la sanctification. Ça découle naturellement de la grâce. Et si cette poursuite-là dans mon cœur de la sanctification n'est pas là, c'est possiblement que je n'ai pas un cœur régénéré. Je n'ai pas un cœur nouveau. D'accord? Possiblement. Mais je devrais définitivement m'interroger. Et donc, lorsqu'un chrétien passe, et on a tous des moments où on s'écarte, on s'éloigne, puis pendant un bout de temps, on est en train d'errer. Tout le monde, moi le premier, d'accord? On a tous des moments comme ceux-là. Mais ces moments-là doivent nous troubler tôt ou tard, ils doivent nous troubler profondément à cause de la doctrine de la grâce. Ça va? Oui. Monsieur Lacasse.
Si l'élection était conditionnelle, est-ce que aussi, dans l'œuvre de la grâce, notre sanctification est inconditionnelle? Ou est-ce que, de gloire en gloire, c'est Dieu qui nous façonne ou on a un rôle là-dedans? Ou qu'est-ce que tu en penses?
Bonne question. Je pense que la meilleure réponse, d'accord? Je pense que la meilleure réponse, c'est, dans le fond, la question de... Si je comprends bien ta question, ce que tu es en train de demander, c'est, puisque Dieu nous a choisis, si on croit que Dieu nous a choisis par lui-même, sans voir à l'avance, en regardant dans le cœur de Dieu, puis dire, celui-là, si je l'expose à l'Évangile, il va être mieux que l'autre qui est là, puis il va accepter l'Évangile. C'est quand même un petit peu ça, la vision arminienne de l'élection. C'est pas ça personnellement que je crois, c'est vraiment pas ça que je vois dans les Écritures. Je crois que oui, Dieu nous a élus par pure grâce, il a choisi de faire grâce à certains, c'est tout. Puis là, la question qui se pose lorsqu'on entend ça, c'est on dit, oui, mais ça veut dire, est-ce que Jay est responsable de répondre à cette décision-là? Est-ce qu'il y a une part à prendre dans ça? Maintenant que je comprends ce mystère-là, comment est-ce que Dieu travaille où l'être humain est responsable de faire des choix, puis Dieu est souverain dans sa providence, il est souverain sur toute chose, c'est que Dieu travaille de manière concurrente, on pourrait dire, sa volonté et ma volonté vont concourir ensemble, d'accord? Et donc, je ne fais pas des choses contre ma volonté. C'est ma volonté qui est là, mais en même temps, elle concourt en même temps avec la volonté de Dieu. Je réponds de la même manière à la sanctification. D'accord? Dieu va me garder et donc ma volonté va venir épouser la volonté de Dieu puisque j'ai été sauvé. Son esprit est là, il travaille en moi. Et donc, il y a cette espèce de participation, de collaboration. Et c'est ça qui crée une espèce de tension. On voudrait résoudre ça simplement en disant... Si les Écritures disaient, regarde, une fois que tu es sauvé, t'es comme, tu te mets sur le cruise. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu te mets sur le cruise control. C'est lui qui run l'affaire, l'autopilote. Puis ça s'en va tout seul. C'est comme ça serait plus simple, ça serait plus logique. Là, tu dis, OK, il est absolument souverain, puis c'est pas ma responsabilité. Mais c'est pas ça que je vois dans la Bible, n'est-ce pas? Ce que je vois dans la Bible, c'est que je suis responsable de participer à ma sanctification. Je suis responsable de répondre positivement à toutes les inclinaisons que l'Esprit veut apporter dans mon cœur. Dans notre vision pour les prochaines années, on a marqué « marcher près de Dieu ». C'est quoi ça veut dire, « marcher près de Dieu » ? Ça veut dire, quand je lis les Écritures, ben d'abord, je vais vers les Écritures pour avoir un cœur près de lui. Quand je vais vers les Écritures, l'Esprit-Saint va me parler. Quand l'Esprit-Saint me parle, mon cœur veut être disposé à écouter ce que l'Esprit-Saint me dit. Je veux marcher près de Dieu constamment, au jour le jour. D'accord? Donc, j'ai une responsabilité dans ça. C'est ça que je vois dans les Écritures. La manière que je comprends ce mystère-là, comment est-ce que Dieu opère dans ça, c'est que Dieu souverainement, par sa providence, vient faire concourir sa volonté à lui avec la mienne. Ça demeure un mystère pour moi. Mais en même temps, c'est tous les chrétiens, sur ça, sont calvinistes de manière pratique. OK, là, je sais, j'emploie des termes que vous ne connaissez peut-être pas, là, mais ceux qui sont en train de débattre de ça dans leur esprit, je l'ai souvent donné comme exemple, d'accord? Tous les chrétiens, de manière pratique, sont calvinistes. Dans le sens que vous êtes là, puis il arrive une situation dans votre quotidien, vous intervenez d'une manière particulière, waouh, il en sort des choses incroyables, vous n'aviez pas prévu tout cela, d'accord? Vous n'aviez même pas pensé faire autant de bien que ça. Après, qu'est-ce que vous dites? Hey, c'est le Seigneur qui m'a dirigé. Est-ce que vous êtes en train de dire à ce moment-là que Dieu vous a comme... déplogué, puis c'est lui qui a pris le contrôle. OK, autopilote, Saint-Esprit, c'est plus toi qui dirige ici, c'est moi. Tu n'es plus responsable de tes décisions. Est-ce que c'est ça que vous êtes en train de dire? C'est pas ça que vous croyez. Ce que vous croyez, c'est que Dieu vous a dirigé à travers vos décisions à vous. Ça se ressemble pas mal, d'accord? Vous comprenez? Donc, de manière pratique, on l'est tous. Si on ne l'était pas, on dirait, je suis tellement fort que je ne savais pas le bien que j'allais faire, mais intuitivement, dans mon subconscient, je suis mindé pour le bien. Fait que j'ai décidé d'aller prendre cette traque-là par moi-même. Comprenez? C'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réalise qu'on a été sauvé par grâce. On dit, waouh, Seigneur, je ne l'avais pas vu venir, celle-là, mais tu es en train de te servir de moi. Et quand on dit ça, on regarde en arrière et on se dit pas, hey, c'est vrai, je n'avais pas réalisé, mais j'ai eu un blind spot. Pendant 3 ans, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Je n'étais plus là. Ça devait être le Saint-Esprit qui me dirigeait. Comprenez? Ou j'ai comme, non, j'ai, tout d'un coup, j'ai eu le feeling que, hey, j'étais comme derrière, c'était plus moi qui contrôlais mon corps. J'étais en train de voler voyage astral au-dessus, c'est Saint-Esprit qui a pris le contrôle. C'est pas comme ça qu'on l'expérimente. On admet de manière pratique que Dieu est en train de travailler à travers nous. Ça va? Brièvement, super brièvement, il faut que j'attaque l'autre leçon. Oui, Gérard.
J'ai observé quelque chose d'assez intéressant à travers la vie. C'est qu'il y a une question de repentance. Avant, je péchais et j'offensais Dieu. Et je n'avais aucun résultat de... Ça ne me faisait rien. Mais quand j'ai commencé à connaître Dieu et Dieu frappait à mon cœur, il m'a amené à une repentance. Et cette repentance-là m'a amené à avoir une communion avec Dieu qui me permet de dire maintenant que j'ai une décision à prendre. Elle est influencée par mon contact avec Dieu, ma conversation, ma connaissance de la Bible, la connaissance de mes frères et sœurs, la connaissance des situations, à choisir c'est quoi qui est le mieux pour. Et là, le Saint-Esprit est en mesure de travailler dans mon cœur.
C'est quoi la nuance précise que tu fais entre avant puis maintenant?
Entre avant maintenant, c'est que avant, j'avais un cœur qui déplaisait à Dieu. Mm-hmm. Et maintenant, Dieu a produit en moi un cœur nouveau qui produit une reconnaissance envers Dieu.
OK.
Et qui m'amène à une transformation que le péché a détruit dans ma vie.
OK. OK, c'est bon. Oui. Oui, tout à fait. Peut-être la seule nuance que j'ajouterais à ça, c'est que Dieu travaille dans le monde. Ça fait une couple de fois que je vous mentionne ça, cette notion de la grâce commune. D'accord? Donc, Dieu n'est pas absent du monde. Et donc, j'irai jamais jusqu'à dire qu'avant ma conversion, avant que je naisse de nouveau, avant que j'ai un cœur régénéré, jamais j'éprouvais une certaine repentance. D'accord? Je pense que ce qu'on voit dans les Évangiles, par exemple, c'est que l'Esprit de Dieu travaille dans la vie d'un individu avant même sa nouvelle naissance. Déjà, il est en train de l'attirer. D'accord? Et donc, Paul va parler de cette conscience qu'ont ceux même qui ne connaissent pas Dieu et qui, par motif de conscience, des fois vont choisir de faire le bien. D'accord? Maintenant, je pense que ce qui change fondamentalement, un peu comme Gérard vient de le dire, lorsque je nais de nouveau, premièrement, c'est mon motif. Plus j'avance dans la vie, plus ma repentance est poussée par la recherche de la gloire de Dieu. Pas de régler les problèmes dans ma vie. Puis au début de ma vie chrétienne, il y a beaucoup de choses où je mets de l'ordre dans ma vie parce que c'est pas nécessairement conscient, mais je me dis, écoute, ce livre-là, il est commode. Ma vie est super en désordre, puis il peut mettre de l'ordre dans ma vie. Fait que ma vie va être plus confortable. Et c'est au début de la vie chrétienne, c'est comme ça qu'on sort de la Bible souvent. D'accord? Et donc, notre repentance n'est pas tout à fait encore pour la gloire de Dieu. Notre repentance, c'est encore une fois pour dire, mais ça va mettre de l'ordre dans ma vie, ça va être plus confortable. C'est vrai que ça va mettre de l'ordre dans ta vie. C'est pas vrai que ça va être plus confortable. Je veux dire, Jésus sur la croix, c'était tout sauf confortable. Vous lirez la fin de la vie des apôtres pour ceux qu'on a, l'histoire de l'Église. C'est pas vrai que c'est confortable. D'accord? Mais c'est vrai que ça met de l'ordre. Et donc, lorsque je décide de me charger de ma croix et de suivre Christ, d'appliquer les préceptes, je décide progressivement, plus je mature dans ma vie chrétienne, de me repentir par reconnaissance envers Dieu puis pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qui change dans la dynamique de mon cœur. Fais-tu du sens ce que je dis là? Ouais? Un peu? C'est bon. Si vous trouvez que je suis compliqué et que je ne suis pas clair, là, c'est un petit peu volontaire, c'est pour que vous alliez lire le livre de M. Packer. Je pourrais être vraiment bon, mais...
Oui, il y a une question de même. On est gracié par Dieu, puis on fait partie de son royaume. Mais quand on fait avec notre sauveur pour l'éternité, il n'y aura plus de création parce que, d'après moi, le péché reviendrait encore.
S'il y avait une nouvelle création?
Oui, une nouvelle création, ça sera encore du péché, ça va toujours recommencer, d'après moi.
Je sais pas. C'est une bonne question. Est-ce que vous avez compris la question, Brigitte? Est-ce que dans l'éternité, Dieu va continuer à créer comme une nouvelle création puis nous exposer? Premièrement, j'ai tendance à croire, puis là, ça serait d'aller dans un autre texte. Soit dit en passant, on va avoir une série sur l'Apocalypse à quelque part dans les 24 prochains mois, des dimanches matins, fait qu'on va aller traiter des sujets intéressants. Mais j'ai tendance à croire que la création va être perpétuelle. OK? Et on a adressé cette question-là un petit peu la semaine dernière lorsqu'on a dit « Oui, mais qu'est-ce qui va faire qu'on ne pêchera pas à ce moment-là? » Je pense que c'est beaucoup l'idée que Christ va être parfaitement formé en nous. Alors, c'est sûr, le diable va être lié, il n'y aura plus de tentation, il n'y aura plus de tentateur. Mais surtout, Christ va être parfaitement formé en nous. Alors, Dieu crée l'humanité, Dieu crée l'homme parfait dans le sens qu'il est sans péché, l'homme et la femme. Mais Dieu n'habite pas en l'homme comme il habite en nous maintenant et comme il va habiter en nous lorsqu'on va être dans sa présence pour l'éternité. L'Esprit de Dieu n'a pas été donné à Adam et Ève comme il est donné aux chrétiens maintenant. Et l'Esprit de Dieu n'était pas en Adam et Ève comme il l'est en nous maintenant et comme il va le demeurer pour l'éternité. Donc, lorsqu'on va entrer dans la présence de Christ avec un corps glorifié, Christ parfaitement formé en nous, je pense que c'est ça qui va nous garder de retourner. Parce que celui qui a passé les tests, Jésus, les a tous réussis, et c'est lui maintenant qui est formé en nous. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir venir me faire passer un test dans l'éternité puis me faire couler le test si Christ est formé en moi parfaitement? Non, je ne pense pas. Fait que ça serait... Pardon? Oui, absolument. Oui, Sam? Vas-y. Je pense qu'on va faire l'autre leçon la semaine prochaine, les amis.
Hein? Souvent, cette idée-là de recommencement perpétuel, tu sais, un cycle, ça vient beaucoup des religions païennes qui croient qu'on recommence à nouveau une nouvelle vie encore. La particularité des Hébreux qu'on ne connaît pas, c'est que nous, on est habitués à une histoire qui commence bien, qui va mal au milieu, mais qui finit bien. Les Hébreux, eux autres, sont vraiment différents de nous autres. C'est que la mère. Puis on dirait que Dieu a formé leur pensée de même. C'est qu'il y a un début parfait, il y a une fin parfaite, puis au centre, là, il y a vraiment quelque chose de particulier qui se passe, d'unique. Fait que quand Dieu parle d'une nouvelle création, il veut vraiment nous amener à la même chose qui était au départ, c'est-à-dire en pleine communion avec lui-même. Et à la fin, ça va être pareil, mais nous, on est rajoutés là-dedans. Puis au centre, il y avait Christ qui était unique une fois pour tous. Puis la Bible semble vraiment montrer qu'il n'y aura pas de recommencement perpétuel de la création, tout ça, mais que c'était un événement unique une fois. Pourquoi? Mais ça, on le sait tout simplement pas.
Mais je pense, on le voit dans l'Apocalypse, Dieu venait manifester. C'est comme si Dieu avait créé quelque chose de parfait, puis qu'il pouvait parfaire la perfection. Fait que Dieu crée la terre, Dieu crée l'humanité, mais il dit, j'ai encore plus à vous montrer de moi. Puis je vais le faire à travers la miséricorde, à travers Christ. D'accord? Et donc, ça prend cette intervention-là pour qu'on arrive là après, d'accord? Ça, c'est bon. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein? Oui, ben oui, tu as l'attitude de faire un autre commentaire, puisqu'on va faire la prochaine. Moi, ce que je vais vous demander, puisque vous avez reçu la leçon, est très courte. Lisez-la, d'accord, pendant la semaine, puis on va la discuter la semaine prochaine. On n'a pas la semaine prochaine, dans deux semaines. Dans deux semaines, il n'y a pas de cours la semaine prochaine. Je reviens là-dessus.
Ce que je crois, c'est qu'à quelque part, quand que Dieu a créé l'homme, Satan existait et il y a eu une rébellion dans le ciel. Mm-hmm. Okay? On en a parlé un peu la semaine passée. Oui. Et cette rébellion-là, Dieu veut la régler une fois pour toutes. Il ne veut plus avoir d'aucune occasion de rébellion dans le ciel. Donc, ici sur la terre, quand Jésus a dit, le jour, il s'en va, là, je m'en vais, moi. Maintenant, la nuit s'en vient. C'est que Satan, il a pris la place sur la terre, puis c'est lui. Maintenant, c'est l'Église qui se manifeste contre les œuvres de l'Éternel, de Satan, afin que lui soit détruit. Et quand Dieu va avoir détruit Satan complètement, ben nous, on va avoir cette repentance-là, cette reconnaissance-là de toute la souffrance qu'on a eue devant Dieu. Mm-hmm. Et on va pouvoir vivre éternellement dans une paix sans guerre. Et c'est là que tout se fait. Et Dieu va envoyer gagner une guerre ultime contre un ennemi qui est Satan, dont lui va nous révéler toutes ces choses-là quand on sera avec lui dans le ciel.
Ça, c'est clair. Merci. C'est clair qu'avec l'Apocalypse, avec la fin, on a une résolution parfaite. C'est clair qu'on s'en va là. Et donc, appréhender, craindre que comme il y a une espèce de cycle qui recommence, ça ne fait pas de sens. Dieu fait tout ça pour révéler sa gloire. Toute l'histoire de l'humanité est là pour révéler sa gloire puis nous amener à participer à sa gloire. Or, sa gloire est parfaitement manifestée dans le bien-aimé, Jésus-Christ. Une fois que ça s'est fait, tout est fait. D'accord? Tout est accompli. On va terminer avec un mot de prière. La semaine prochaine, c'est la fin de semaine de Pâques. D'accord? Alors, le service commence à 10h15. Il n'y a pas de cours biblique à 9h. Puis on reprend le dimanche suivant. Ça va? On va aller ensemble dans un mot de prière. Éternel notre Dieu, on veut te bénir, Seigneur, pour tes bontés, te bénir pour ta grâce, Seigneur, te bénir pour ces réflexions, je te prie de les faire descendre dans nos cœurs, dans notre vision de toi, Seigneur. Ce sont des choses à la fois simples et en même temps très riches. Je pense, Père, des choses difficiles à comprendre à notre époque où notre pensée et de toutes sortes de manières, tellement imbibées par une pensée contemporaine qui place vraiment l'homme au centre de toute chose, au centre de son propre jugement, de son propre univers. Et donc, je pense que c'est difficile à comprendre pour notre époque, Père. Je te prie de faire descendre ces vérités dans nos cœurs, dans notre esprit, afin que notre lecture de ta parole en soit éclairée, que notre lecture de notre quotidien, notre lecture de l'actualité dans le monde en soit éclairée, Seigneur, et que nos cœurs trouvent un véritable bonheur en toi, Seigneur, réalisant ta grâce, réalisant combien tu es gracieux et combien tu veux faire grâce encore aux hommes, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ce temps passé ensemble. Je te prie de nous bénir maintenant pendant la célébration, Seigneur. Rends-nous attentifs, disponibles pour un frère, une sœur, un visiteur, quelqu'un qui ne te connaîtrait pas, Seigneur, et qui a besoin simplement qu'on aille vers lui, qu'on aille vers elle, qu'on prenne de ses nouvelles, qu'on veuille faire connaissance, l'aimer, le rencontrer. Sois béni, Seigneur, pour la famille de Dieu. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.